que la Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
Maître Côté, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors hier, on nous expliquait un petit peu cette affaire-là, le fait que c'est une requête des avocats, des accusés, soit le père et la belle-mère de la victime, qui demandaient à ce que les procès aient lieu ailleurs que dans la ville où les gestes ont été commis. Maître Côté, c'est-tu exceptionnel de voir ça, qu'on déplace des procès? C'est déjà arrivé à quelques moments dans l'histoire?
Oui, c'est assez rare parce que ça prend une combinaison de plusieurs facteurs. Le fait qu'il y ait eu un tapage médiatique sur un crime particulièrement odieux, c'est pas suffisant en soi. Il faut que ça soit utile pour les fins de la justice d'ordonner ce changement de territoire-là, changement de venue qu'on appelle communément, pour permettre de déplacer l'appareil judiciaire. Parce que là, on comprend, c'est tous les témoins, c'est beaucoup de monde qui devront aller témoigner dans un autre district, plus loin que ce qui est normal. Les critères que la Cour doit se poser, c'est est-ce que on va être capable de trouver dans ce district un jury suffisamment impartial et qui va pouvoir entendre cette affaire-là. La problématique dans les petits districts, c'est de trouver ces gens-là. Parce que plus on a un bassin grand de candidats potentiels, plus on est capable de réunir nos 12 à 14 jurés là, qu'on a besoin. Okay. Mais dans un petit district qui a frappé l'imaginaire, un crime qui a frappé l'imaginaire, ben là, ça devient complexe.
Donc, ça devient plus difficile à mettre à côté. Alors, est-ce que... C'est parce qu'hier, je me disais, pourquoi justement on... Si on a à le déplacer, pourquoi on y va pas dans une région plus grande, comme, je sais pas, la région de Montréal, où justement le bassin de population est plus important? Parce que, bon, oui, à Grand Bay, puis dans le secteur, je comprends que tout le monde connaît, mais au Québec, Maître Côté, cette histoire-là a fait la manchette. T'sais, je pense qu'à Trois-Rivières, puis en Mauricie, là, ça doit être rare, les gens qui en ont pas entendu parler.
Mais ça, c'est clair. Puis encore plus avec à l'ère des réseaux sociaux. Mm-hmm. La nouvelle se propage énormément à une vitesse incroyable. C'est pour ça que c'est pas le seul critère. C'est pas le critère le plus important. Le critère le plus important, c'est de s'assurer que l'accusé a un procès juste devant un jury impartial, puis qu'il est dans une atmosphère sereine. Alors, transférer ça à Montréal, c'est sûr que ça aurait été le vœu des avocats de la défense, ils sont de Montréal. Mais le problème, c'est que Montréal a son lot de procès déjà. A déjà toutes ses affaires. Alors, les ressources judiciaires sont déjà surutilisées en matière de procès devant jury. Alors, les grands centres, ils ont déjà leurs problèmes, ils ont déjà leurs ressources sont utilisées au maximum. On les envoie vers un centre intermédiaire, Trois-Rivières, qui, lui, bon, n'est pas aux prises avec les mêmes problèmes.
Mais Maître Côté, je vous pose la question, dans une situation comme celle que l'on vit, donc un dossier qui a été très médiatisé, probablement le plus médiatisé de la dernière année, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas fait le choix d'un procès devant juge seul?
Écoutez, c'est vraiment, ça prend le consentement des accusés dans un premier temps. Pour avoir un juge seul. Si l'accusé choisit d'être devant jury, alors on doit respecter son choix. On peut pas le forcer à être jugé devant un juge seul. On parle de l'infraction la plus grave du criminel en ce qui concerne la dame, un meurtre au second degré. Alors c'est quand même important et elle a choisi d'être devant jury. Alors c'est son choix et ça doit être respecté.
OK, ça veut dire que, leur avocat doit respecter. Si l'accusé dit, moi, je veux un procès devant jury, ils n'ont pas le choix de respecter leur demande. C'est ce que je comprends?
Effectivement.
OK. Maître Côté, avant de vous laisser partir, je vais vous amener juste sur un autre sujet. Évidemment, avec la COVID, avec tout ce qui se passe actuellement, il y a des dénonciations qui se font. Hier, nous était racontée une histoire dans l'émission de notre collègue Bernard Drainville. C'est une femme qui a raconté avoir vu une employée de Poste Canada se licher les doigts avant de remettre les lettres aux adresses bon, aux adresses postales et bon, en conversation, elle a dit ben, tu as dit, ben moi je crois pas à ça, puis c'est des théories, puis faisait un peu partie de la théorie du complot. Et je me suis posé la question, dans des comportements comme ça où quelqu'un est pris en flagrant délit de volontairement, je fais référence au jeune qui avait toussé sur le terminal. Là. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas trop de suivi de son dossier. Est-ce qu'on pourrait assister dans les prochains mois à des accusations envers des gens, justement, qui volontairement vont pas nécessairement transmettre la COVID, mais qui commettent un geste qui est discutable? Est-ce que vous me suivez? On pourrait-tu assister à ça?
Ben écoutez, la stupidité humaine n'est pas encore criminalisée. Ceci étant dit, la problématique ici de porter des accusations, disons, d'une négligence criminelle, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Ça serait fort tentant de pouvoir le faire. Mais le ministère public, pour pouvoir prouver là, ce genre de crime-là, ben, premièrement, il faudrait qu'il y ait une conséquence. Est-ce que les gens sont infectés? S'ils sont pas infectés, ben, il n'y en a pas de conséquence. Alors, c'est plus un problème au niveau de droit disciplinaire avec son employeur. Je pense qu'une plainte pourrait être logée à Poste Canada pour que des normes plus strictes, plus rigoureuses soient établies pour contrôler ou circonscrire ce genre d'activité-là. On peut comprendre que quelqu'un qui manipule du papier dans la longueur de journée, comme les postiers, les mains deviennent peut-être sèches puis secs. Alors, ils ont besoin d'humidifier, mais qu'ils pourraient porter un gant ou quelque chose comme ça, un gant de cuir ou de latex. Puis, il pourrait faire son travail quand même. Je pense que c'est un problème plus interne chez Poste Canada de directive et peut-être de sanctions face à cet employé-là, parce que de toute évidence, il ne représente pas tellement bien la société d'État. Mais au niveau criminel, présentement, je ne verrais pas d'issue pour une plainte pour cet individu-là.
Merci, Maître Côté.
Ça m'a fait plaisir.
Merci, au revoir. Charles Bécoté, avocat criminaliste. Donc, deux choses, le dossier de la fillette de Granby, les deux procès qui vont se tenir à Trois-Rivières et quelques petites questions sur la COVID.